Donc ce matin, nous allons voir le sujet de entendre la voix de Dieu. Entendre la voix de Dieu. Et je ne parle pas audiblement. Oui, Dieu s'est révélé audiblement dans le passé, certainement. Mais on va tourner dans 2 Pierre 1, 16 et 21. Et on n'est pas perdant si Dieu nous a donné la parole de Dieu et qu'on ne peut plus l'entendre audiblement parce qu'il a choisi maintenant de nous avoir donné sa parole écrite. Alors, on n'est pas perdant du tout, parce que Pierre nous dit qu'elle est d'autant plus certaine, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, l'écriture. On va lire donc 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. Et ensuite, on va tourner aussi dans Hébreux 12, 25 à 26. Et ce sont nos deux passages dans un sens de départ. Ce matin, nous sommes un peu en entre-série. Mais ça fait une semaine ou deux là que je m'y donne beaucoup sur cette question-là, à répondre à quelques questions qui m'ont été posées, etc. Mais donc, je pense beaucoup à ceci en ce moment. 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. Il y a des Bibles ici, si vous n'avez pas votre propre Bible, il y a des Bibles. Si vous avez besoin de Bible, vous pouvez simplement lever la main, on voit une. On vend les Bibles à coup, donc si vous avez besoin d'une Bible, ben, ce sont ces modèles-là justement qu'on vend. 2 Pierre 1, 16. Et si vous avez votre propre Bible, très bien. 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. 2 Pierre, chapitre 1, versets 16 à 21. Et il dit, « Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. » Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et regardez dans Hébreux 12, 25 à 26. Hébreux 12, 25 à 26. Hébreux 12, 25 à 26. Il dit, c'est page 919 dans la pagination, là. Si ça peut aider à trouver. Page 919. Hébreux chapitre 12, versets 25 et 26. Il dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Gardez-vous de refuser d'entendre donc celui qui parle. On va prier. Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, dans ce monde, il y a beaucoup de doutes vis-à-vis de ta parole, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, merci pour la nature de ta parole qui nous confirme elle-même ce qu'elle est elle-même, Seigneur Dieu. Et Seigneur, aide-moi de bien proclamer droitement le sens de ta parole, Seigneur, on te prie. Et que tu puisses travailler dans le cœur de chacun, Seigneur Dieu, selon le besoin de chacun. Que ce soit de venir à toi, Seigneur Dieu. Que ce soit d'être encouragé et nourri dans sa foi, Seigneur Dieu, pour grandir et te servir encore mieux, Seigneur, on te prie, au nom de Jésus. Amen. La Bible, qu'est-ce qu'elle est la Bible? Elle est la somme de ce que Dieu a révélé dans les prophètes, par les prophètes, aux prophètes, et qu'il leur a fait écrire. Est-ce qu'il est la somme de tout ce qu'il a dit aux prophètes? Non, parce qu'il avait des prophètes comme Élie, comme Élisée, à qui Dieu donnait la parole, et ils les ont donnés, et ce n'est pas nécessairement toujours écrit. Mais c'est la somme de ce que Dieu a révélé aux prophètes et leur a fait écrire, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Donc c'est la Bible est la somme des deux, l'Ancien Testament et le Nouveau. Elle est la somme de ce qui est appelé les Écritures. Mais elle est plus que la somme. Elle est un ensemble. C'est pour ça que justement, dans le passage qu'on a lu dans 2 Pierre, il utilise non pas l'expression « les Écritures », il emploie l'expression au singulier « l'Écriture ». Les Écritures d'un côté, parce que ce sont plusieurs livres donnés à plusieurs prophètes, mais ce n'est pas juste les Écritures, c'est l'Écriture. Parce que ça forme un tout. Et voilà ce que nous avons donc, la Bible, c'est la somme de cela complète avec l'Apocalypse. Et donc, il complète cette collection d'écritures. Alors, on le voit, je vous donne quelques exemples, les Écritures, Matthieu 21, 42, ça dit, Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, etc. Donc, ils citent l'Ancien Testament, ils les appellent les Écritures. Matthieu 22, 29, la même chose. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Un dernier exemple parmi tant d'autres, Luc 24, 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Maintenant, quelques exemples de l'Écriture. À part celui qu'on vient de voir dans 2 Pierre, Marc 12, 10, n'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Marc 15, 28, ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nom des malfaiteurs. Luc 4, 21, alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli. Et il y a beaucoup d'autres exemples, mais les deux expressions sont utilisées comme équivalent. Les Écritures, l'Écriture, et donc c'est très significatif. Maintenant, l'Écriture est donnée comme étant, elle est toujours appelée la parole des hommes? Non, la parole de Dieu en contraste avec la parole des hommes. Et ça, c'est une question très importante parce que Dieu a, comme il dit dans Hébreux 1, autrefois Dieu a parlé à travers les prophètes, maintenant il parle par le Fils. Mais c'est Dieu qui a parlé. Est-ce que c'est la parole des hommes? Non. D'ailleurs, je vais mettre ceci sur notre site web et en tant qu'article. Et là, je m'y jetais sur le. Il y a toutes sortes de titres que je voulais donner, mais la Bible, est-ce que c'est la parole de Dieu ou la parole des hommes ou les deux? C'est la parole de Dieu. Dieu a. Et à ce niveau-là, Dieu le rend clair. 1 Thessaloniciens 2, 13. Regardez dans 1 Thessaloniciens 2, 13. Juste parce que Dieu a parlé au travers des humains, ça ne veut pas dire que c'est la parole des hommes. Il y en a qui sont attirés par l'idée que c'est les deux. C'est la parole de Dieu, puis c'est la parole des hommes en même temps. Mais non, la parole de Dieu ne se présente jamais comme étant les deux. Juste la parole de Dieu. En contraste avec la parole des hommes. 1 Thessaloniciens 2, 13, ça dit c'est pourquoi. D'ailleurs, je vais prendre quelques volontaires ici et là à travers. Ça, non seulement ça nous encourage de suivre, mais ça, je sais qu'il y a la chaleur, tout ça, donc ça va aider aussi à rester alerte. Pas que vous, ce matin, en avez besoin, mais... 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Elle est directement dite qu'elle n'est pas la parole des hommes. Elle est la parole de Dieu. C'est la même chose dans 2 Corinthiens 4, 2. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Est-ce que j'ai un volontaire pour lire cela? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. C'est page 880, page 880. On va voir un nombre de passages et j'aime ça de temps en temps, prendre des volontaires pour lire. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Oui, Mackenzie?
Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous l'altérons point la parole de Dieu, mais en se publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu.
Très bien, donc Paul, c'était spécifiquement la parole de Dieu et il ne voulait pas y aller avec sournoiserie, quoi que ce soit. Publiant la vérité, la parole de Dieu. Maintenant, retournons à Romains chapitre 16 pour voir que justement, ce n'est pas juste les écrits des prophètes de l'Ancien Testament, mais ça inclut les prophètes du Nouveau Testament. Romains 16 est très... Ah ben, j'ai dit tout à l'heure qu'on allait lire Romains 15. Mais c'est Romains 16. C'est moi qui est dans le champ. Ben, ok, je sais pourquoi. Romains chapitre 15, verset 33, « Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. » Il y a un peu comme une conclusion avant qu'il fasse les salutations. Ce que j'ai dit n'était pas faux, mais ce que j'ai dit non plus ne s'appliquait pas entièrement à ce que j'ai dit, parce que ce de quoi je parlais, je pensais que c'était dans le Romains 15 de mémoire, mais c'est dans le Romains 16, le dernier chapitre, verset 15, Romains chapitre 16, versets 25 et 26. Est-ce qu'un autre volontaire? Romains chapitre 16, versets 25 et 26. Vas-y, Alexandra.
À celui qui peut vous affirmer selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations.
Afin qu'elles obéissent. Finir avec le verset 27, oui, jusqu'au. Finir tout, oui.
Après qu'elles obéissent à la foi, à Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen.
Ah, c'est le verset que mon épouse tout à l'heure a mentionné. Ah, à Dieu seul sage, à la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Mais justement, il dit justement à celui qui peut vous affermir donc par mon évangile, puis spécifiquement, il dit, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Maintenant, là, il parle du Nouveau Testament. Les écrits des prophètes du Nouveau Testament, d'après l'ordre du Dieu éternel, et portaient la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Donc clairement, ici, la Bible, ça inclut aussi les écrits des prophètes du Nouveau Testament. Maintenant, la parole des prophètes est dite d'être spécifiquement Dieu qui parle par ses prophètes. Pas juste les prophètes qui parlent au nom de Dieu, puis qui donnent un peu leur message aussi bien qu'ils peuvent, mais c'est quand même leur message. Parce que, entre vous et moi, on sait que Dieu a utilisé les différents styles d'écriture. Hein, l'apôtre Paul écrit dans un style différent que Jacques, et que Jude, et que Pierre. On voit les différences dans les psaumes, on voit les différences... De personnalité à travers ce qui est écrit, mais est-ce que c'est vraiment chacun qui parlait pour lui-même, puis qui donnait grosso modo le message que Dieu voulait qu'il lui donne, mais à sa manière? Est-ce que ça pourrait être équivalent à « moi, je vous prêche la parole ». Moi, je prêche, et j'imagine que d'autres prédicateurs, ben, je sais, ils ont parfois une autre personnalité, puis ça sort un peu différemment. Non, ce n'est pas du tout la même chose, parce que moi, ce que je vous donne doit être conforme à la Bible. Je ne parle pas du tout, tout ce que je dis, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais tout ce que les prophètes ont écrit, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Regardez dans 1 Roi chapitre 16, verset 7. 1 Roi chapitre 16, verset 7. Et là, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'on le voit tout à travers l'Ancien Testament, mais 1 Roi 16, 7, ça dit « La parole de l'Éternel s'était manifestée par le prophète Jéhu. » Vous voyez la manière que c'est dit. « Moi, je vous dois vous prêcher la parole de Dieu et l'expliquer, comme il était expliqué dans Néhémie, qu'ils ont donné le sens. » Mais là, on parle de ceux qui ont écrit les prophètes. Le message lui-même des prophètes, c'est la parole de Dieu. 2 Chroniques 18, 18. 2 Chroniques 18-18, peut-être que là je ne vous ai pas donné le temps assez de tourner dans le rang 3 16, je vous donnerai un peu plus de temps. C'est page 340. Page 340, 2 Chroniques 18-18. Et remarquez ce qui est spécial, et je vous fais réfléchir un peu ce matin. Et Miché dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite, à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui se dira Achab, roi d'Israël, etc. Maintenant, le « j'ai vu l'Éternel », c'est qui parle? C'est Miché. Mais c'est la parole de Dieu. Et là, ensuite, Miché le cite directement, l'Éternel dit, qui se dira et qui séduira Achab. Alors regardez Jérémie 23, là Dieu est très 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 explicite, que quand il dit à un prophète de parler pour lui, ça sera la parole de Dieu. Jérémie chapitre 23 verset 16, Jérémie 23 16, Page 591. Jérémie chapitre 23, verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Un vrai prophète, il va donner ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Regardez un peu plus loin. Là, vous pourrez reprendre ce passage et le lire en plus en détail, mais pour le temps, ce matin, on va sauter au verset 25. Il dit, j'ai entendu, Dieu, il dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom, le mensonge, disant, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Donc, est-ce que Dieu, il n'est pas clair que le prophète qui donne fidèlement sa parole, ben, ce n'est pas la parole du prophète, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est sorti de sa bouche. Il dit, verset 32, c'est pourquoi, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leur parole, qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. Maintenant, un peu plus loin. Verset 33. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande quelle est la menace de l'Éternel, tu leur diras quelle est cette menace, je vous te rejetterai, dit l'Éternel. Et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira « menace de l'Éternel, je le châtirai lui et sa maison ». Vous direz « chacun à son prochain, chacun à son frère, qu'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel ». Mais vous ne direz plus « menace de l'Éternel », car la parole de chacun sera pour lui une menace. « Vous tordez les paroles de Dieu vivant, dit l'Éternel des armées, notre Dieu ». Tu diras au prophète que t'a répondu l'Éternel, qu'a dit l'Éternel, et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites ce mot menace de l'Éternel, quoi que j'ai envoyé vers vous pour dire, vous ne direz pas menace de l'Éternel, à cause de cela, voici, je vous oublierai, et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Dieu avait dit spécifiquement, ne dites pas menace de l'Éternel. Et il y a des prophètes qui disaient « menace de l'Éternel ». Et Dieu leur dit « ah, parce que vous continuez à dire ce que je n'ai pas dit, pour faire croire aux gens ». Et remarquez bien, il dit « parce que vous tordez ». au verset 36, vous tordez les paroles du Dieu vivant. Et dans, autour de nous, il y a beaucoup d'églises qui vont tordre les Écritures et ils vont citer des versets hors contexte pour faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. C'est pour ça que je vous invite chacun à vérifier, moi, tout ce que je vous apporte là, de vérifier l'exactitude de la chose avec la parole de Dieu. Et Dieu, il le dit bien, le prophète qui donne sa parole, c'est la parole de Dieu. Et on va regarder beaucoup d'exemples dans le Nouveau Testament, assez rapidement. Luc 1:70, il dit « Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes ». Donc c'est Dieu qui l'a annoncé par la bouche de ses saints prophètes. Acte 1:16, Pierre il dit « Homme frère, il fallait que s'accomplisse que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David ». C'est Dieu qui parle par la bouche d'un humain. Acte 3:18. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Acte 3:21. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Acte 4:25. C'est toi, Pierre. Je pense que c'est Pierre. Mais c'est peut-être pas spécifié, mais les apôtres priaient. Puis il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. On l'a lu, j'ai cité en référence Hébreux 1:1, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Donc, la question maintenant se pose. Si Dieu utilise les hommes comme il pourrait m'utiliser ce matin pour donner la parole de Dieu, et je dis pourrait parce que ça reste à être démontrice à suivre la parole de Dieu. Moi, je ne suis pas du tout infaillible. Tout ce que je dis doit être conforme à la parole de Dieu. Mais Dieu a utilisé les prophètes pour donner sa parole. Ces prophètes-là, tout ce qu'ils disaient donc était infaillible. Tout ce qu'ils écrivaient était donc infaillible. Regardez, il y a des personnes qui se demandent, mais les choses qu'on trouve dans la Bible qui semblent contradictoires, quoi en faire? Peut-être que c'est parce que c'était des humains, ils étaient faillibles. Dieu s'en est servi dans la faiblesse de leur chair, ils ont fait leur mieux. Mais Dieu est plus grand que ça, Dieu peut servir comme il y en a qui peuvent se convertir, avec le témoignage que je fais de sa parole, ne serait-ce pas la même manière que Dieu a utilisé un prophète qui donne grosso modo quand même finalement sa parole, même si les détails ne sont pas exacts, ça ne pourrait pas être comme ça? Non, là on change tout là. Regardez, est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles? Oui, regardez dans Acte 1:18. Acte 1:18, qu'est-ce que Dieu dit là-dedans, Acte 1:18? Pierre, il nous dit des choses par rapport à Judas. Pierre, page 827. Page 827. Et il dit, page 827, acte 1, 18 et 19. Pierre, il dit, cet homme, et là il parle de Judas, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé. S'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue à Caldéma, c'est-à-dire chant du sang. Ok? Donc là, cet homme ayant acquis un chant, il s'est rompu par le milieu. Mais qu'est-ce que dit Matthieu 27? Matthieu 27, regardez dans Matthieu 27, verset, page 757. Page 757, la question se pose, pourquoi est-ce qu'on lit ce qu'on lit dans Matthieu 27 après qu'on a lu Acte 1:18? Alors Judas qui l'avait livré, verset 3, à Matthieu 27, verset 3, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent ». Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde ». Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et qu'est-ce que ça dit après? Involontaire. À la se pendre. Il est tombé puis s'est rompu par le milieu, il alla se pendre. Bon, verset 6. Les principaux sacrificateurs. Quelqu'un pour lire verset 6? Matthieu 28, 6. Vas-y, Raymond.
Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le fruit du sang.
Ça, c'est les pharisiens qui ont pris l'argent, qui sont allés acheter un champ. Ah, ça semble que Pierre, il ne savait pas trop de quoi qu'il parlait, ou Matthieu, il ne savait pas trop de quoi parler, ils se sont un petit peu enfargés dans les paroles. Non. Non, pas du tout. Si on vient à cette parole pensant que c'est la parole des hommes, on ne va pas introduire avec Pierre, on ne va pas introduire avec Matthieu. Quelle différence? Bon, ils ont donné grosso modo, est-ce que ça change grand-chose? Bon, pas grave, c'est une erreur ici. Wow! Si on pense qu'il y a une erreur ici dans Matthieu 27, ou peut-être dans Actes, ou peut-être dans les deux, hein, peut-être que les deux, mais qui nous dit que Jean 3,16 est correct? Si Dieu a pu utiliser un homme qui fait une erreur sur le détail de comment Judas est mort, puis, qui a acheté le champ, qui nous dit que Jean a bien écrit Jean 3,16, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être que ce n'est pas le monde entier, peut-être que c'est juste quelques uns, peut-être que c'est pas la vie éternelle, etc. S'il y a la possibilité d'erreur dans Actes 1 et dans Matthieu 28, bah, il faut admettre qu'il y a une possibilité d'erreur dans le reste. Si c'est la parole des hommes, c'est la parole des hommes. Si c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Dieu, est-ce qu'il n'est pas clair là-dessus? C'est la parole de Dieu. Et est-ce qu'il y a vraiment une contradiction? Est-ce qu'en cependant, si ça n'a pas tenu, puis que ça a éclaté, puis qu'il est tombé, puis que c'est éclaté, puis que les entrailles étaient ouvertes, ça ne se peut pas qu'il y ait deux décrivent? Si plusieurs aveugles viennent à un éléphant, puis chacun tient une partie du corps, puis un il dit, ben, un éléphant, c'est comme un... C'est comme quelque chose d'une grande feuille de banane, parce que c'est grand et c'est mince. Et un autre, il prend la queue et puis il dit, ah non, non, c'est comme un serpent, c'est long. Non, non, l'autre, c'est comme un tronc d'arbre, c'est incroyable, c'est fort et gros. Bah, quand on met tous ensemble, l'éléphant, c'est plus que juste une chose, c'est l'ensemble. Et quand on voit une apparence d'erreur, peut-être qu'on doit reculer et dire, peut-être que nous, on ne connaît pas tout. Il y a peut-être une manière de ce que, qui explique les choses. Que, et peut-être que justement, il est tombé. Par rapport à qui a acheté le champ, peut-être les pharisiens l'ont acheté en son nom. C'était son argent. Ils ne voulaient pas mettre leur nom. Peut-être qu'ils l'ont acheté en son nom. Alors c'est connu que c'est lui qui l'a acheté officiellement, même s'il était déjà mort, même si c'est d'autres qui l'ont acheté pour lui. Mais on prend pour acquis que si c'est la parole de Dieu, puis la parole de Dieu se déclare comme vérité, l'apparence d'erreur, on va faire confiance à Dieu que lui, il sait à propos de comment expliquer tout ça. On va donner juste un autre exemple. Les inscriptions sur la croix. Okay, Matthieu 27, 29, ça dit, on écrivait au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Marc 15, 26, l'inscription, portez ces mots, le roi des Juifs. Luc 23, 38, il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » Jean 19, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Alors là, quelqu'un va dire, « Ah, ça ne se peut pas que toutes ces choses-là, il faudrait avoir multiples inscriptions pour que chacun le cite. » Mais, premièrement, la citation, même en français, on a la citation indirecte, directe, et on comprend comme quelque chose. Marc Endy a dit qu'il pleuvrait demain. Marc Endy a dit, il va pleuvoir demain. Bon, je ne vais pas utiliser le mot exact, mais vous avez compris, là, c'est une citation indirecte et indirecte. Il peut y avoir toutes sortes de manières de comprendre qu'il n'y a pas de contradiction réelle. Mais la question est plutôt celle-ci, donc. Avec quoi est-ce qu'on gère? Est-ce que c'est la parole des hommes qui nous donne d'une façon imparfaite la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Et la Bible elle-même se déclare la parole de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu et ce qui sort de la bouche du prophète qui n'est pas sorti de la bouche de Dieu, Dieu le condamne carrément, un faux prophète. Est-ce que les prophètes ne devaient-ils pas être attestés en ayant un taux de fiabilité de 100%? tout ce qu'il disait devait être exact. Tout ce qu'il prédisait devait s'accomplir. Tout ce qu'il disait devait aller avec ce qui avait déjà été révélé dans le passé. Tout, sans exception. Deutéronome 13 et Deutéronome 18. Mais si on dit, il y a des erreurs ici et là, mais quand même l'ensemble, c'est Dieu qui nous a communiqué des choses importantes. Si on ne peut pas être certain de tout, sur qui repose la différence entre, dans acte 1, c'est pas très fiable, Jean 3, 16, c'est fiable. Ça repose sur le lecteur. Le lecteur doit décider qu'est-ce qui lui semble bien fondé, qu'est-ce qui n'est pas la parole de Dieu, qu'est-ce qui a été fait un petit peu improprement, soumis à l'errance humaine, et qu'est-ce qui a été mieux. Et là, ça devient la question de degré, c'est le lecteur qui doit donc juger. Mais ça ne se confirme pas avec ce que Dieu dit, que c'est la parole de Dieu, elle est vivante, c'est elle qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça ne va pas non plus avec l'avertissement que Dieu donne avec Proverbe 14, 12. Dieu spécifiquement dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce n'est pas ce qui nous paraît qui peut être le fondement de notre foi. On a besoin que Dieu nous ait révélé la vérité, puis là, c'est à nous de nous y soumettre et de lui faire confiance que lui, il sait de quoi il parle. Lui, il sait de quoi il parle. Proverbe 28, 26, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Vous savez, quand je témoigne à des gens, et peut-être si vous êtes chrétien, vous avez peut-être déjà remarqué ça aussi, quel est un refrain que les gens utilisent constamment pour communiquer qu'est-ce qu'ils croient? Selon moi. Hein? Selon moi, mon avis, ceci, selon moi, ça, selon moi, ça, selon moi, si. Dieu ne veut pas que ce soit des selon moi. Est-ce que moi, je vous dis des selon moi, mais selon moi, ils valent rien. C'est qu'est-ce que Dieu dit qui compte, selon la Bible, selon la parole de Dieu, Dieu dit. Alors, examinons justement, Dieu a averti, comme on a vu dans Jérémie 23, on a vu dans la parole, 2 Corinthiens 4, 2, justement, nous n'altérons pas la parole de Dieu. Dieu appelle sa parole la vérité, Jean 17, 17. Mais regardons spécifiquement maintenant, il est spécifié la totalité de ce qui est écrit dans Jean 16, 13. Regardez dans Jean 16, 13, je vais prendre un volontaire pour le lire. Jean 16, 13. Si la parole de Dieu est juste la parole de Dieu dans son ensemble, et que c'est grosso modo la parole de Dieu à travers la parole des hommes, et que la parole des hommes est imparfaite, mais on a quand même la parole de Dieu à travers. Ok, c'est une théorie, mais cette théorie, elle ne marche pas avec ce que la Bible dit d'elle-même. Regardez dans 1 Corinthiens, dans Jean, chapitre 16, verset 13. Quelqu'un ? Un volontaire pour le lire ? Jean 16, 13, ok. Laura, page 822. Page 822. Alors, il dit spécifiquement l'esprit de vérité. Mais ensuite, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, si on conclut qu'il y a une erreur dans acte 1 ou dans Matthieu 27 par rapport à Judas, l'esprit n'a pas dirigé cette partie-là. Non, il y a un problème. C'est un ensemble. Tout se tient ensemble. Regardez dans Josué 1. Ben, je vais juste le lire parce que le temps passe, mais Josué 1,8, peut-être vous le connaissez bien, vous pouvez le réciter avec moi. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Et un passage dans Proverbe 8, le Proverbe 8 que justement les adolescents ils ont un quiz biblique sur Proverbe 8, 9, 10, 11. Ben, Proverbe 8. Proverbe 8, j'avoue, Proverbe 8, ce n'est pas une référence directe à la parole de Dieu. Mais si l'implication n'est pas appliquée à la parole de Dieu, pourquoi nous avoir donné Proverbe 8? c'est la parole de la sagesse ici est en vue, mais si ça ne s'applique pas à la parole de Dieu, pourquoi nous l'avoir même donnée? Parce que dans Proverbe 8, à partir du verset 5, un adolescent qui veut le lire, comme on le voit, ou ensemble, les adolescents ensemble, tous ensemble, parce qu'on le lit, fait le lire ou le réciter si vous le connaissez par cœur. Homme, verset 4. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Verset 5, page 483, si j'ai été trop vite là. Page 483, Proverbe chapitre 8, verset 5 maintenant. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Et tout le monde, si vous voulez vous rajouter à nous, tout le monde, verset 7, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droit pour ceux qui ont trouvé la science. Alors, si on ne peut pas appliquer ça à la parole de Dieu, je ne sais pas pourquoi ça a été écrit. Mais regardez, on n'a pas besoin de se demander si c'est applicable à la parole de Dieu. Dans Proverbe 30, ça le dit directement. Proverbe 30, versets 5 et 6, page 503. Proverbe 30, versets 5 et 6. Allez, ensemble, ceux qui veulent, avec moi. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Toute parole. Donc, ça ne laisse pas de place. Parce que la parole de Dieu inclut la parole des hommes, puis certaines erreurs ici et là. Ça ne laisse pas de place. C'est soit la parole de Dieu est vraie, soit qu'elle ment par propre d'elle-même en disant qu'elle est toute la vérité. Maintenant aussi, la Bible dit dans Psaume 119, 160, « Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Matthieu 4, 4, vous le connaissez peut-être, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et comme on a vu tout à l'heure, l'expression « les Écritures », « l'Écriture », tout va ensemble. On va conclure avec ceci. Puisque c'est important de considérer que c'est la parole de Dieu, la version écrite, Dieu a choisi de ne plus avoir donc pour nous aujourd'hui la version orale. Mais il nous a donné sa parole, qui est d'autant plus certaine donc. Eh bien, justement, parce que ce n'est pas la parole des hommes. Elle doit être prêchée, elle doit être prêchée avec insistance. 2 Timothée 4, 2, il dit prêche. Paul dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc, ma responsabilité est de prêcher la parole. Ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu. Et on doit le faire, donc, d'insister en toute occasion. Paul dit aussi dans Tite que ce n'est pas une référence directe à la parole de Dieu, mais d'une façon... Par extension, Paul dit, comme on a vu la semaine dernière, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, elle nous enseigne à renoncer à l'inquiété, etc. » Comme on a vu la semaine dernière, bien, il conclut en disant « Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. » Dieu ne dit-il pas dans Ésaïe 55 « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé ?» Féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Dieu dit dans Jean 10, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie. Et Hébreux 4, 12, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est pour ça que quand on vient à ce livre, de Genèse à Apocalypse, Dieu a parlé à travers des humains, oui. Ces humains-là, ils ont donné la parole de Dieu. Dieu n'a pas inclus en partie les faux prophètes qui ont parlé de leurs propres idées et qui les ont appelés la parole de Dieu. Ce livre est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'Hébreux nous dit, et là on va finir, avec Hébreux comme on a commencé. Hébreux 12, 25, il dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. » Et le point d'Hébreux, c'est que justement, Dieu non seulement a parlé dans l'Ancien Testament à travers les prophètes, mais là il a parlé dernièrement par le Fils. Et donc, il a été confirmé aussi par ceux qui l'ont entendu, Hébreux 2. Mais justement, il leur dit, justement, aux Juifs qui avaient décidé de croire en Jésus, mais qui étaient là tentés de dire, ah, on fait compte Jésus de Nazareth. Non, c'est pas comment lui, mais si, on va revenir à ce qu'on faisait avant, comme sacrifice, tout ça. Et Hébreux leur dit, wow! Tout ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, ça se confirme en Jésus. C'est Jésus, la nouvelle alliance, c'est Jésus. Celui qui a payé réellement pour nos péchés, par qui le pardon doit venir, peut venir et doit venir, c'est Jésus-Christ. Et donc c'est Dieu qui justement confirme le Nouveau Testament de tout ce qui est dit sur Jésus-Christ. Et l'auteur d'Hébreux dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Parce que là, il compare ceux qui ont entendu un message dans l'Ancien Testament, car si ceux-là n'ont pas échappé, qu'ils refusèrent d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre. Là, il n'est pas en train de dire Moïse, il a donné sa parole, pas la parole de Dieu. Il n'est pas en train de faire ce contraste-là. On pourrait à la surface prendre ça et puis dire, ah, là, il contraste ce que Moïse a dit et ce que Dieu a dit. Mais ce n'est pas le point principal, ce n'est pas le point de ce qu'il dit dans Hébreux. Il dit, si ceux qui ont refusé celui qui parlait pour Dieu, la Moïse, dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse, si ça, ça condamne, combien plus qu'on rejette Jésus-Christ? Combien plus quand on rejette ce que Dieu dit sur Jésus-Christ, qu'il est justement l'accomplissement de tout ce qu'il avait promis d'avance. Et c'est pour ça qu'il dit, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre. Dieu avait parlé dans l'Ancien Testament, il avait ébranlé la terre. Et là, il dit maintenant, il va ébranler beaucoup plus que la terre. Il va ébranler même les cieux. Alors aujourd'hui, on doit faire attention d'écouter celui qui parle du haut des cieux. Si on n'a pas encore... Si on ne s'est pas converti à son message de Jésus-Christ, convertissons-nous. Si on s'est converti, continuons à marcher à la lumière de sa parole et d'être encouragé par sa parole. Nous avons ici donc la parole. Donc la question c'est, est-ce que vous entendez et est-ce que vous suivez la voix de Dieu? Est-ce qu'on le prend tellement précieux que là c'est écrit, mais c'est la voix de Dieu, c'est ce qui sort de la bouche. On va prier. Seigneur Dieu, travaille dans le cœur de chacun. Seigneur, dans ta grâce, utilise ces faibles mots de ma part, Seigneur Dieu, pour refléter qu'est-ce qui est écrit, que les gens puissent ressortir avec ce qui est écrit et qu'ils puissent vraiment vouloir croire et te faire confiance dans ce que tu as révélé, Seigneur Dieu, et de ce qui est sorti de ta bouche. Et qu'ils puissent se convertir, pour ceux qui ont besoin de la conversion, vraiment de venir à Jésus, celui par qui le pardon peut s'obtenir à cause que c'est lui qui est mort une fois pour toutes, pour tous nos péchés, une fois pour toutes, qui est ressuscité des morts, Seigneur Dieu, pour notre justification. Seigneur, donc, je te prie de toucher le cœur selon chacun des besoins. Et Seigneur, pour ceux qui se sont convertis, qu'on puisse être encouragés, tu nous as donné ta parole, et qu'on puisse continuer à la lire et l'observer, la méditer, Seigneur Dieu, pour être renouvelé de jour en jour. Seigneur Dieu, on te prie, au nom de Jésus.